magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine qui vous informe sur les activités des Nations Unies en RDC. Au sommaire, situation sécuritaire à Beni où la société civile a décrété des journées vie morte pour pousser la brigade d'intervention de la MONUSCO et l'armée congolaise à combattre les groupes armés dont le M23. C'est notre actualité de la semaine. Le plan d'action humanitaire 2013 pour la RDC était chiffré à plus de 800 millions de dollars américains. Selon le coordonnateur humanitaire Mustapha Soumaré, à ce jour, le financement est déjà réalisé à près de 52%, de quoi être satisfait, mais les efforts doivent se poursuivre. Le numéro 2 de la MONUSCO est notre invité ce dimanche. Et notre nouvelle en province parlera de la peste des petits ruminants, une maladie qui a décimé des milliers de chèvres l'année dernière, notamment dans le Bandundu. Une campagne de vaccination contre cette maladie a été organisée à Kenge grâce à l'appui de la FAO.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La semaine qui s'achève a été marquée, entre autres, par la situation sécuritaire qui prévaut à Beni, dans le Nord Kivu. La population a observé pour la seconde fois une journée vide morte, mercredi dernier. Objectif, faire pression sur la brigade d'intervention de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de les pousser à agir contre les groupes armés qui écument la région, dont le M23. Au même moment, la MONUSCO enregistre plusieurs défections des éléments de ces groupes armés. Les détails avec Jean-Pierre Elali, Coco.
Le calme est revenu dans la ville de Beni, à 350 km de Goma. Mercredi dernier, cette agglomération ressemblait à une ville fantôme. Pas de banques, pas de stations-service. Petits commerces, boutiques et magasins sont restés fermés. C'est le résultat des journées ville morte décrétées par la société civile locale. Une initiative pour faire pression, d'abord sur la MONUSCO, afin d'obtenir l'entrée en action de la brigade d'intervention. Ensuite, sur le FARDC, pour le pousser à poursuivre les opérations militaires contre les groupes armés. Le journaliste présent à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de mercredi dernier sont revenus à la charge. Comment alors la MONUSCO réagit-elle face à cette impatience de la population du Bénin? Écoutez la réponse du porte-parole de la mission onusienne, Manoj Mounoubaï.
Je voudrais vous informer que le vendredi dernier, le commandant de la force de la MONUSCO ainsi que le commandant de la brigade d'intervention se sont rendus à Beni où ils ont rencontré les autorités locales et la société civile pour échanger avec eux. En ce qui concerne la MONUSCO, nous comprenons très bien les attentes et l'impatience de cette population, mais il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Face à cette attente et à cette impatience, je crois qu'il faut opposer un réalisme et surtout leur faire comprendre qu'il y a un besoin d'une bonne planification. Je pense que le message est passé parce qu'au niveau des autorités de Beni, ils ont compris la position de la MONUSCO. Je pense aussi que la société civile de Beni a compris la position de la MONUSCO. La situation n'est pas aussi alarmante que vous le dites, puisque dans cette ville, nous continuons à circuler normalement, nous continuons à travailler normalement.
Message bien compris. Et bien plus, la MONUSCO enregistre depuis début août plus de 104 défections de groupes armés, dont 31 du M23. Le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, explique les raisons de ces redditions.
Si nous avons enregistré autant de redditions, ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la traque ou en tout cas les opérations qui sont menées de manière récurrente contre ces groupes armés les poussent à la reddition. Mais aussi, notez que ces groupes armés font beaucoup reddition auprès de nos bases opérationnelles parce que quelque part aussi, ces éléments armés ont une forme de confiance dans les bases opérationnelles de la MONUSCO et viennent, une fois qu'ils sont fatigués, faire reddition.
Alors, comment la MONUSCO gère-t-elle les gens qui s'y rendent? Hervé et ses DD3R de la MONUSCO.
Parmi les rendus, il faut catégoriser deux groupes, le groupe des étrangers qui sont rapatriés dans le cadre du processus que l'on appelle D2-3R, le premier R signifiant rapatriement. Pour ce qui concerne des rendus de nationalité congolaise, ils sont conjointement avec l'autorité congolaise dont c'est la responsabilité première, désarmés et surtout démobilisés.
Les mineurs sortis des groupes armés sont pris en charge par des partenaires de l'UNICEF pour la réunification familiale et la réinsertion, indique Madame Hadi, chef de la section protection de l'enfant à la MONUSCO.
Restant toujours dans le domaine sécuritaire, pour rappeler que des obus tirés par le M23 sont tombés dans la soirée du jeudi à Goma, au nord Kivu, principalement vers les quartiers Virunga et Birere. Une autre bombe est tombée à Munigi, à quelques kilomètres de Goma, tuant 3 personnes. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a immédiatement réagi à cette attaque. J'ai donné l'ordre à la force de la MONUSCO de réagir et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les civils et empêcher tout avancement du M23, c'est ce qu'a déclaré Martin Kobler.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le mardi 13 août, l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa a servi de cadre à une journée porte ouverte pour l'UNESCO et la Commission nationale pour l'UNESCO RDC. La vice-ministre de l'EPSP et le représentant de l'UNESCO en RDC ont pris part à cette journée à laquelle des structures associatives et autres se réclamant de l'UNESCO étaient conviées. Le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en RDC, Lazare Liema, explique ici le rôle de cette institution et de ses structures associatives telles que Club UNESCO et École Associée. Il décrypte ces termes dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Lazare Liema, bonjour.
Bonjour.
Comment fonctionne une commission nationale pour l'UNESCO?
Nous devons nous référer à l'article 7 de l'acte constitutif de l'UNESCO qui stipule que chaque État prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l'organisation les principaux groupes nationaux qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de recherche scientifique, de la culture et de préférence en constituant une commission nationale où seront représentés les gouvernements et les groupes. En d'autres termes, la Commission nationale constitue une plateforme où les gouvernements et la société civile, les ONG, se retrouvent la main dans la main pour parler de l'UNESCO et de ses objectifs. Généralement, l'UNESCO travaille pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une commission nationale, c'est d'abord un organe consultatif du gouvernement en matière de coopération avec l'UNESCO. Il joue le rôle d'organe conseil et dans un second temps, il est organe de liaison et d'information parce qu'il joue le rôle d'interface entre l'UNESCO et l'État membre. Il est aussi organe d'élaboration parce que lorsque l'UNESCO se réunit en conférence générale ou au conseil exécutif, il demande les points de vue du gouvernement.
Oui, puisque vous parlez de la société civile, c'est ce qui explique la présence ou l'existence d'autres structures du genre, Club UNESCO, École Associée. Quelle est leur mission? Ça veut dire quoi, Club UNESCO, École Associée?
Les clubs UNESCO, les écoles associées et les bibliothèques associées, j'ajoute une autre structure, les bibliothèques associées, sont pratiquement les militants bénévoles au service d'un idéal. L'idéal, c'est contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale par les actions qu'ils mènent au niveau national. Ils sont militants bénévoles parce qu'ils vivent de leurs moyens et de leurs ressources, parce que l'UNESCO n'apporte pas les ressources à ces organisations non gouvernementales et les écoles associées et les bibliothèques associées, les associations étant des clubs UNESCO, contribuent aussi à la compréhension internationale, à la formation et à l'éducation de leurs groupes. Pour qu'au niveau national, nous formions les citoyens internationaux sans distinction des races ni des religions que la Charte des Nations Unies a adoptée lors de sa création en 1945. Voilà un peu le rôle de Club UNESCO, École Associée, Bibliothèque Associée.
Et quel est le rapport entre ces structures et la Commission nationale pour l'UNESCO?
La Commission nationale, voire même l'UNESCO et ses organismes sont des partenaires qui militent pour les mêmes objectifs. Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Une école associée, ça veut dire quoi exactement?
Une école associée, c'est d'abord une école publique ou privée qui s'est tout simplement engagée à promouvoir la paix, à promouvoir la compréhension mutuelle. Il n'est pas une école de l'UNESCO. Même les clubs UNESCO ou les bibliothèques associées de l'UNESCO ne sont pas des clubs ou des bibliothèques ou des écoles associées de l'UNESCO. Ce sont tout simplement les écoles qui défendent l'idéal de l'UNESCO. Ils se sont engagés de manière bénévole à défendre l'idéal de l'UNESCO, celui de contribuer au maintien de la paix. Pour l'école associée, en dehors des cours qu'ils reçoivent dans le cadre du programme national, ils ajoutent certains éléments sur la compréhension mutuelle, la protection par exemple de l'environnement, l'éducation à la paix, l'éducation aux droits de l'homme, au cours des activités scolaires et parascolaires. Donc pour que ces élèves qui sont formés dans ces écoles soient comme des citoyens internationaux qui n'ont pas de race, qui n'ont pas aussi de religion.
Est-ce qu'il y a des conditions pour devenir une école associée?
D'abord, il faut être une école publique ou privée que l'État reconnaît et vous exprimez le besoin d'adhésion. Il y a un formulaire que l'UNESCO met à la disposition des commissions nationales pour émettre à ces écoles et ces écoles remplissent. On envoie ce formulaire à l'UNESCO et le directeur général ou la directrice générale aujourd'hui signe un certificat d'adhésion et la commission nationale est chargée alors à remettre ces certificats d'adhésion à l'école et l'école va avoir une documentation en provenance de l'UNESCO pour lui donner par exemple certains programmes, certaines actions à mener. Donc voilà un peu comment ces choses se présentent.
Et comment peut-on former ou avoir un club UNESCO?
Il faut d'abord être une ONG. Il y a des clubs, associations, il y a aussi des clubs à l'école. Lorsque vous êtes une école, vous devenez club UNESCO. Si vous êtes une école privée, vous devez avoir votre arrêté d'agrément. Il existe une plateforme appelée Fédération des associations centre club UNESCO. Vous devez vous adresser à la Commission nationale si vous voulez une association, une ONG. Vous devez avoir alors le document que l'État vous accorde en termes de statut notarié, autorisation de fonctionnement, ainsi de suite. Ces dossiers, vous les présentez à la Commission nationale et la Commission nationale demande à la Fédération qu'il y ait une plateforme pour pouvoir vous visiter, voir si effectivement vous avez une existence réelle sur le terrain. Et on va devoir vous accorder une attestation de reconnaissance comme étant un club UNESCO. Mais on est d'abord association, ONG.
Et à ce jour, la Commission nationale pour l'UNESCO, RDC, a répertorié combien de clubs UNESCO, combien d'écoles associées?
Combien de bibliothèques associées aussi? Bon, pour les clubs UNESCO, aujourd'hui nous répertorions plus ou moins 380 clubs UNESCO. Et pour les écoles associées, plus ou moins 130 écoles associées. Pour les bibliothèques associées, nous avons plus ou moins 80 bibliothèques. Ils sont scolaires, universitaires et bibliothèques privées qui ont adhéré à ces réseaux.
Monsieur Lazare Liema, selon vous, dans quel domaine l'UNESCO est plus présente en RDC? Est-ce que c'est dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture, de la communication, de l'information?
L'UNESCO se présente dans tous ces secteurs, c'est-à-dire éducation, science, culture, communication, information. Mais il faut dire que c'est dans les secteurs et l'éducation que la présence de l'UNESCO se fait voir de plus en plus. Et c'est là pourquoi, parce que dès l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avions un problème de formation. Il n'y avait pas assez de cadres. À l'époque, je crois, nous avions moins de 5 universitaires en 60. Et l'UNESCO s'est investi plus au secteur éducatif, raison pour laquelle à l'époque, on a créé l'IPN, aujourd'hui Université Pédagogique Nationale. On avait créé aussi l'IBTP, l'école de droit et d'administration ex-INDA, aujourd'hui le centre supérieur militaire. Il y avait aussi une institution d'enseignement supérieur au niveau de l'ICASI, institut supérieur des mines. Et l'UNESCO aussi a développé une coopération accrue avec la RDC dans le domaine de la réforme du système éducatif, surtout avec le système de CO, cycle d'orientation. Mais il faut dire la présence est plus dans le secteur éducatif parce que même au niveau de l'UNESCO, le secteur éducatif a une grande part en raison de sa spécificité.
Lazare Liema, merci.
Merci beaucoup.
Nouvelle en bref. D'abord, parlons du séjour en RDC de la haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme, Flavia Pantieri. Arrivée jeudi dernier, elle s'est d'abord rendue à Goma, au Nord Kivu. Flavia Pantieri vient évaluer la situation des droits de l'homme en RDC et le travail réalisé sur terrain par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Augmenter la production et améliorer leur état nutritionnel et leur situation socio-économique, c'est l'objectif d'une formation organisée dans le territoire de Walungu au Sud Kivu, dans le cadre du projet Champs, École, Paysans, un projet conjoint FAO, Care International. Organisé du 16 août à la semaine dernière, cette formation a réuni une quarantaine de personnes représentant les différentes communautés de ce territoire. 51 enfants, dont 6 filles ont été libérées ces dernières semaines des rangs de plusieurs groupes armés et rassemblées dans le camp de formation de l'armée de Nyamunyuni, près de Bukavu au sud Kivu, une opération de la MONUSCO réalisée avec ses partenaires dans la protection des enfants. Restons à la MONUSCO cette fois dans ses activités communautaires et humanitaires pour signaler l'inauguration lundi dernier du bâtiment d'hospitalisation des femmes malades de fistules de l'hôpital de Rwankole, un hôpital de Bunia dans la province orientale. Cet ouvrage a été réhabilité et équipé par la MONUSCO. Enfin, toujours en Ituri, des kits médicaux pour les femmes enceintes déplacées. Près de 4000 trousses médicales constituées notamment de kits d'accouchement ont été remis la semaine dernière aux formations sanitaires de Mambasa, où les femmes déplacées enceintes sont prises en charge. Un don des fonds de Nations Unies pour la population, le FNUAP, grâce à un financement du Fonds commun humanitaire, Pool Fund.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée le 19 août de chaque année. En marge de cet événement du lundi dernier, notre invité est Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur du système des Nations Unies et de l'aide humanitaire en RDC. Il fait le point de la situation humanitaire dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Moustapha Soumaré, bonjour.
Bonjour.
La communauté internationale célèbre le 9 août de chaque année la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pourquoi cette journée?
Qu'ils vous souviennent que le 19 août 2003, nous avions tous vu à la télé cet acte ignoble terroriste au niveau de Bagdad, où nous avons perdu plus de 22 de nos collègues avec la bombe qui a été déposée au headquarters de Bagdad. Donc c'est pour ça que l'Assemblée générale a maintenu cette date du 19 comme un jour pour l'action humanitaire, pour justement nous permettre de commémorer et d'être en symbiose avec nos collègues que nous avions perdus.
En février dernier, vous avez lancé le plan d'action humanitaire 2013 pour la RDC. Parmi parcours, quel bilan faites-vous de ce plan d'action, notamment du point de vue de son budget et de ses objectifs?
Je voudrais d'abord, à ce propos, vraiment remercier d'abord le gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que le plan d'action a été élaboré en pleine collaboration avec le gouvernement. Je voudrais ensuite remercier nos partenaires au développement qui ont vraiment contribué au financement de ce plan d'action humanitaire, qui aujourd'hui est financé à près de 52%. Sur un montant qui fait plus de 800 millions de dollars, nous avons à peu près plus de 50% qui ont été financés et qui tombent bien à propos, parce que nous voyons que c'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir une action rapide pour justement sauver les vies humaines.
Lorsque vous lancez ce plan, vous étiez partagé, ce sont vos propres termes, entre la crainte de voir la situation s'empirer et l'espoir d'une solution politique. À ce jour, est-ce la crainte ou l'espoir qui pèse plus?
Vous savez, la situation a évolué aussi à l'Est, il faut le dire, parce que après justement le lancement de ce plan d'action humanitaire, il y a eu aussi les attaques qui ont eu lieu au Nord Kivu, qui ont aussi entamé quand même un certain déplacement des populations. Donc il y a aussi l'espoir qui est en train de renaître, parce que nous voyons aussi avec cet engagement que nous voyons non seulement au niveau du gouvernement de la République du Congo, mais aussi de la communauté internationale, de faire en sorte que la paix puisse revenir à l'est de la RDC. Je crois que c'est un espoir que nous nourrissons tous et nous souhaitons que vraiment cet engagement que nous voyons puisse véritablement se concrétiser au bénéfice des populations de l'Est.
Et comment se présente cette situation humanitaire aujourd'hui?
Elle se passe relativement bien, parce que compte tenu justement du fait que nous avons pu avoir les ressources nécessaires, ça nous a permis vraiment en tant qu'humanitaire de pouvoir répondre aux besoins des populations. Et ce qui a pu se faire, c'est qu'on a pu mettre en place même tout un plan de contingence éventuellement pour pouvoir répondre justement à tout mouvement de population qui pourrait être déclenché par éventuellement la crise à l'Est.
Vous avez aussi promis de vous lancer dans un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour que la crise de la RDC ne soit pas une crise oubliée. Est-ce que vous avez perçu une certaine lassitude dans le chef des bailleurs de fonds?
Je ne parlerai pas de lassitude, mais vous voyez, nous devons aussi être objectifs. Parce que quand nous voyons aussi l'environnement international aujourd'hui, avec la crise en Syrie, la crise en Égypte, la crise au Mali, la crise partout en Afrique, et c'est les mêmes partenaires qui sont sollicités à chaque fois pour le soutien. Moi, je peux dire que vraiment au niveau de la RDC, déjà avec le niveau de financement que nous avons pu avoir au niveau de notre plan d'action environnementale, je dirais plutôt merci aux partenaires qui contribuent vraiment à cela. Mais, comme je dis, ce n'est pas encore gagné. Nous devons faire en sorte que nous continuions justement ce plaidoyer. C'est ce que je m'invertirai à faire avec toute l'équipe de OCHA et tous les partenaires de mise en œuvre pour que nous puissions faire en sorte que nous puissions au moins ramener, si vous voulez, le financement de ce plan d'action humanitaire au niveau de l'année passée et même plus, donc plus de 70 à 80%.
Alors, quelles sont les principales contraintes que les humanitaires rencontrent sur le terrain congolais ?
Pour le moment, vraiment, la principale contrainte que nous avons, c'est vraiment les problèmes de ce qu'on appelle d'accès. Ces problèmes sont non seulement sécuritaires, parce qu'il y a vraiment certaines zones où il y a des groupes armés qui font que nous ne pouvons pas toujours aller vers les populations, quoique nous essayons quand même, malgré cela, de tout mettre en œuvre pour aller vers ces populations. Mais il y a aussi le côté des infrastructures. Il y a des moments, il y a des zones, par exemple, dans lesquelles nous voulons intervenir, où à cause de l'état des infrastructures, il est absolument difficile de pouvoir y arriver. Souvent, on est obligé d'utiliser soit des hélicoptères, et souvent même passer par d'autres pays pour pouvoir accéder à ces zones-là. Donc ça, c'est vraiment les deux défis majeurs que nous avons au niveau des humanitaires. Mais aussi à cela, je crois qu'il faudrait vraiment, encore une fois, dire que nous avons pu avoir vraiment une bonne réaction de toutes les parties concernées chaque fois qu'il s'est agi de l'action humanitaire.
Dernière question, monsieur le coordonnateur. Combien d'incidents contre les acteurs humanitaires avez-vous répertorié depuis le début de l'année sur le terrain et que faire pour éviter ces incidents?
Vous savez, le travail même de l'humanitaire, c'est prendre des risques. Donc quand nous venons à l'humanitaire, nous prenons des risques. Mais c'est vrai que nous devons faire aussi en tant que responsables pour que ces humanitaires puissent aussi faire le travail tout en essayant de minimiser ces risques-là. Cette année, on a eu à peu près plus de 130 cas qui ont été effectués et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour justement faire en sorte que nous créons les conditions de sécurité des humanitaires pour que justement aller dans des endroits les plus difficiles et apporter justement ce soutien qui va permettre de sauver les vies.
Il n'y a pas eu de mort d'homme parmi les humanitaires?
Cette année, on n'a pas eu de mort d'homme, heureusement, mais il y a quand même eu des cas sérieux de blessures et tout ça qui ont été faits. L'année passée, il y en a eu.
Monsieur Moustapha Soumaré, merci.
Merci et merci pour cette opportunité.
Cap sur le Bandundu pour notre nouvel en province, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la peste d'Exterminant à Kenge a démarré mardi dernier et devait aller jusqu'au 26 août, donc ce lundi. Cette campagne est un projet financé par la FAO à hauteur de $500,000. Le docteur Prosper Kabambi, consultant FAO et coordonnateur du projet, parle des objectifs de la campagne. Il est au micro de Belarmin Mouyangui de la radio Kimvu Kanaludondo.
Le territoire de Kenge est un territoire très important du point de vue de la superficie de la population et surtout du point de vue de l'activité d'élevage qui se passe dans ce territoire. Ainsi qu'avec l'entrée de cette maladie qu'on appelle la peste des petits ruminants, c'est-à-dire la PPR, le gouvernement avait demandé l'intervention de la FAO afin de l'épauler dans la lutte contre cette maladie. Pour votre information, la PPR, c'est une maladie qui est causée par un virus et cette maladie n'a pas de traitement. La seule façon de lutter contre cette maladie, c'est de procéder à la vaccination. C'est ainsi que la FAO a apporté l'appui nécessaire pour la concrétisation de cette vaccination avec l'appui et le financement de la République de la Suède.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Annie Mikelezi Kanene. Je suis mariée à M. Mpouyi Moutambaï Germain et j'ai trois enfants, tous sont des filles. Je suis médecin de formation, j'ai terminé à l'université de Kinshasa. Donc après mon diplôme de médecin, je suis allée faire un master en santé publique où je me suis spécialisée à l'option nutrition à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Et actuellement, je travaille à l'UNICEF où j'occupe la fonction d'administrateur chargé de nutrition depuis une année et demie. Avant l'UNICEF, j'ai travaillé au programme national des nutritions, également à l'hôpital d'Inchili. Dès que je me réveille, je m'occupe du ménage, surtout que je suis aussi une femme allaitante, je m'occupe également de mon bébé et je donne les instructions qu'est-ce que tu dois te faire après moi. Dès que je quitte la maison, j'arrive au bureau, donc il y a des tâches déjà programmées. Je regarde qu'est-ce que j'ai eu à faire hier, qu'est-ce que je n'ai pas terminé, qu'est-ce que j'aurai à faire, qu'est-ce que j'aurai à faire aujourd'hui. Et je priorise les tâches et je commence à travailler. Mon temps libre, je le gère à faire plus le ménage. Comme je n'ai pas le temps, je travaille. Donc dès que j'ai un temps libre, je préfère plus travailler. À la maison. Pour les sports, je ne suis pas vraiment fanatique, mais des fois j'aime les sports, j'aime le football, j'aime le foot, surtout les matchs internationaux, ça je regarde. La musique, également ce que je regarde à la télé, c'est toutes les informations pour essayer un peu d'être à la page de ce qui se fait. Également Radio Okapi, je dors avec la radio allumée sur la chaîne Radio Okapi. En tout cas, Radio Okapi, c'est là où je pense qu'il nous faut les informations qui sont à la page. Ce que j'aime faire, j'aime le travail, c'est ça. J'aime travailler, j'aime les biens, je n'aime pas les maçons, j'aime la vérité. De perspective d'avenir, j'ai toujours eu des soucis pour notre pays. Donc, pour moi, j'aimerais contribuer au développement de ces pays sous forme d'une autre. C'est toujours dans les domaines de médical. Surtout que je suis à l'agence, je ne suis qu'à mon débit. Dans un premier temps, je continue à l'UNICEF. On va voir ce que Dieu va nous réserver. Merci.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous vous proposons la question de notre consoeur Aline Ingo de Top Congo FM Goma, une question posée mercredi dernier lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Suivez.
Malgré la présence de ONG humanitaires, des systèmes des Nations Unies, ici à Goma, on signale plus de 100 cas de malnutrition sévère parmi les enfants. C'est vrai, c'est ces enfants qu'on devrait d'abord bien nourrir. Et comment la MONUSCO peut-elle expliquer cela? Les humanitaires plutôt.
Merci Aline. C'est Fabienne Pompey, chargée de communication au Programme Alimentaire Mondial, PAM, qui répond.
Oui, bonjour. Je voudrais d'abord clarifier quelque chose. La MONUSCO ne s'occupe pas de faire des distributions alimentaires ni de soigner les enfants malnutris. Ce sont l'UNICEF et le PAM qui s'occupent de ce volet-là, qui sont les agences humanitaires des Nations Unies. Je suppose que vous parlez d'enfants qui sont dans les camps déplacés, parce qu'on vous dit 100 enfants à Goma, il y en a beaucoup des enfants malnutris, énormément, qui sont pris en charge soit par l'UNICEF, soit par le PAM. Il faudrait que vous soyez un peu plus précis sur où sont ces enfants. S'ils sont dans les camps de déplacés, il y a des centres de traitement de la malnutrition. Si effectivement ils sont diagnostiqués comme malnutris, ils sont systématiquement pris en charge. Voilà, il y a aussi des centres de nutrition à travers la ville, donc il faut qu'ils se rapprochent de ces centres de nutrition. S'ils sont dans les camps de déplacés, tous les camps de déplacés, il y a des centres de suivi de la malnutrition où les enfants sont pris en charge. Donc s'ils sont réellement malnutris, ils seront pris en charge, forcément.
Merci Fabienne.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Dans le chapitre des rendez-vous de la semaine aux Nations Unies, premier rendez-vous à retenir, le 26 août, c'est ce lundi, il est prévu une réunion préparatoire de la 24e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Deuxième rendez-vous, toujours à Genève, du 26 au 30 août prochain, le groupe de travail sur la détention arbitraire tiendra sa 67e session. Autre événement prévu dans le calendrier des Nations Unies, le 29 août, c'est la journée internationale contre les essais nucléaires, et le 30 août, la journée internationale des victimes victimes de disparitions forcées. En RDC, le rendez-vous à retenir, c'est l'organisation à Goma du 30 août au 1er septembre prochain du Festival international de musique et de danse à Mani, une initiative soutenue par le PNUD et les volontaires des Nations Unies. Ce festival compte réunir des artistes de renommée nationale et internationale de la RDC, du Rwanda et du Burundi. C'est la fin du magazine des Nations Unies de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été supervisée par Ben Kabamba, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missing a été au reportage. Moi, Mila Kimwini, j'étais derrière le micro. Et Jean-Claude Fiala était du côté de la régie. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le site internet de la radio www.radiocapi.net. Vos suggestions, vos questions ou vos remarques, faites-nous les parvenir en appelant au 082 30 76 630, en postant un commentaire sur le site internet en dessous du magazine des Nations Unies ou encore en nous envoyant un mail. Voici notre adresse, magun@radiocapi.net. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine et nous vous souhaitons une excellente journée dominicale à tous.